Laudetur Jesus Christus.
Au moins 61 morts dans des raids israéliens sur Palmyre, l'antique ville syrienne ciblée pour la première fois hier par l'État hébreu dans le conflit, portant à 153 le nombre d'attaques israéliennes en Syrie depuis le début de l'année. Deux jours fériés, une population confinée, fruit du recensement en cours en Irak, un comptage historique qui suscite des craintes politiques, nous le verrons côté kurde à Erbil. Avant de se rendre en Haïti où la situation sécuritaire est toujours chaotique, le travail des ONG est de plus en plus difficile, témoignage de Médecins sans frontières qui y a suspendu ses activités. Retour dans notre dossier sur l'adaptation des villes aux phénomènes climatiques extrêmes, trois semaines après la catastrophe à Valence qui a montré toutes ses défaillances.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, la ville antique de Palmyre en plein désert syrien, visée pour la première fois par des frappes imputées à Israël. Plus de 60 personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 50 autres personnes ont été blessées. Il s'agit des raids les plus meurtriers depuis le début de l'année. Ils ont visé la ville moderne, tout près des ruines millénaires qui font la renommée de cette cité, déjà martyrisée par la guerre civile syrienne et destruction de Daesh il y a 8 ans. À Beyrouth, Paul Khalife.
Les médias syriens affirment que les raids ont visé des habitations résidentielles dans la ville millénaire de Palmyre, dans le centre de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme de son côté que les frappes ont visé au moins un dépôt d'armes appartenant à des groupes pro-iraniens. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, ajoute que parmi les morts figurent 22 combattants irakiens et 33 Syriens. La ville historique a été visée par trois séries de raids qui ont provoqué d'importantes destructions, notamment dans la zone industrielle. Les avions ont tiré leurs missiles à partir de la région de Tanaf, à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, où les États-Unis disposent d'une importante base militaire. Israël a attaqué le territoire syrien 152 fois depuis le début de cette année, dont 126 raids aériens. Ces frappes ont fait plus de 360 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les médias syriens soulignent que les raids sur Palmyre interviennent alors que l'armée syrienne et ses alliés livrent de violents combats au groupe État islamique présent dans le désert central. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Soufflant le chaud et le froid, le chef du Hezbollah a prévenu hier qu'Israël ne pouvait imposer ses conditions pour un cessez-le-feu dans la guerre au Liban. Hier soir, l'envoyé américain Hochstein y a mené des négociations avant d'arriver en Israël, au moment où les États-Unis ont de nouveau mis leur veto à une résolution onusienne appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Et pour subvenir aux besoins humanitaires criants dans l'enclave palestinienne, hier l'armée jordanienne a envoyé 8 hélicoptères chargés de 7 tonnes d'aide. Tous les Irakiens sont confinés depuis hier pour cause de recensement de la population. Les autorités ont décrété 2 jours fériés durant lesquels les agents de recensement font du porte-à-porte. Le dernier comptage à l'échelle nationale date de 1987. Opération historique après 4 décennies de guerre aux forts enjeux politiques. L'Irak étant gouverné en fonction de quotas ethniques et religieux. À Erbil, au Kurdistan irakien, Marion Fontenay.
Afin que l'on puisse vous compter, restez à la maison. C'est le message envoyé par les autorités à tous les citoyens irakiens. Depuis hier et jusqu'à ce soir, les écoles, les administrations ou encore les transports en commun, tout est à l'arrêt dans le pays. Les agents de recensement font du porte-à-porte. Sur leur tablette, un questionnaire. Il faut tout détailler. Combien de personnes dans la famille, combien de voitures, de téléphones portables ou encore de machines à laver. Autant de questions afin de mieux saisir la réalité de l'Irak dans les moindres détails. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère du plan. L'initiative a cela d'inédit que le dernier comptage remonte à près de 40 ans sous le régime de Saddam Hussein et en pleine guerre avec l'Iran. Ces données, elles doivent aussi permettre au gouvernement d'investir efficacement l'argent public, déterminer les zones de pauvreté, reconstruire des infrastructures dans un pays qui en manque cruellement. Mais l'enjeu est aussi politique. Les citoyens doivent renseigner leur religion, leur ethnie et les autorités du Kurdistan irakien, la région autonome dans le nord, sont méfiantes. L'Irak est gouverné en fonction de quotas. Si le comptage démontre une baisse de la population kurde, cela pourrait se répercuter au niveau politique, mais aussi au niveau économique, alors que les autorités kurdes envisagent de renégocier à la hausse leur part dans le budget fédéral.
Notre correspondante à Erbil, Marion Fontenay, dans un message sur le site du patriarcat chaldéen, le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche des Chaldéens, invite tous les chrétiens à participer activement à ce devoir national de recensement très important. Le Premier ministre et tout le gouvernement malien limogé par la junte ce mercredi. Une décision des militaires après de rares critiques émises par le chef du gouvernement civil, Choguel Maïgi, samedi dernier à leur encontre. En RDC, des poids lourds de l'opposition promettent des manifestations au président Tshisekedi. Il proteste contre son projet de changement de constitution, l'accusant de vouloir s'éterniser au pouvoir. Tapis rouge, honneur militaire, Lula a reçu en grande pompe son hôte chinois Xi Jinping hier soir. Les deux leaders du dit Sud global ont prôné le dialogue et une solution politique en Ukraine. Parallèlement, le Brésil, aux côtés du Chili, de la Colombie et du Mexique, appelle conjointement à éviter une course à l'armement aggravant la guerre en Ukraine. La défense ukrainienne qui vient d'utiliser des missiles britanniques à longue portée en Russie, selon des médias au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a donc donné son feu vert après les États-Unis. Après un long suspense au Parlement européen, la future Commission européenne devrait pouvoir être validée telle quelle. C'est ce qui ressort des réunions tenues hier au Parlement au sujet du candidat hongrois et de 6 candidats vice-présidents. Les tensions entre groupes politiques auront menacé jusqu'au bout la désignation du nouveau collège. La procédure n'est pas encore achevée, mais une évaluation finale des 7 candidats non encore validés a lieu ce jeudi. Bruxelles, Pierre Benazé.
Parmi les candidats encore en suspens, le Hongrois Oliver Vorey n'est finalement pas recalé, mais son portefeuille est vidé des compétences sur lesquelles il n'a pas convaincu lors de son audition. Ensuite, deux présidents qui étaient sur la sellette. D'abord, l'Italien Raffaele Fitto, dont les socialistes ne voulaient pas, car il appartient à Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, classé à l'extrême droite. Ensuite, l'Espagnol Teresa Ribera, qui était menacé par la droite pour sa gestion de l'environnement avant les inondations de Valence. Ils sauvent tous les deux leur portefeuille, une sorte de donnant-donnant, droite-gauche. Il y a surtout eu un accord global ce jeudi entre les trois partis de la coalition politique. Ils ont renouvelé par écrit leur engagement à travailler ensemble pendant les 5 ans à venir, un accord de coopération en 9 points sur les défis essentiels pour l'Europe: compétitivité, sécurité, migration, climat et inégalités socio-économiques. Les bisbilles entre les groupes politiques ont privé le Parlement européen de sa capacité à recomposer le collège des commissaires, alors que c'est le moment où il a le plus de pouvoir. Surtout, ce retard donne l'image d'une Europe qui a du mal à prendre des décisions à un moment où les défis s'accumulent. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Des experts et personnalités de différents pays attendus au Vatican en février pour un sommet sur les droits des enfants. Annonce du pape François hier en la journée qui leur était dédiée. L'évêque de Rome crée également par un chirographe un comité pontifical pour la journée mondiale de l'enfance. Selon l'ONG Save the Children, environ 1 milliard d'enfants et d'adolescents sont affectés par différentes formes de violence dans le monde. Et parmi celles-ci, la violence en ligne. Pour l'endiguer, le Parlement australien se penche aujourd'hui sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins 16 ans. Une législation pionnière qui envisage des amendes de plus de 30 millions d'euros pour les entreprises ne respectant pas la règle. Au moins 150 morts en une semaine à Port-au-Prince. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce hier soir la violence des gangs. Celle-ci rend désormais le travail des ONG sur place impossible. Hier, Médecins sans frontières, l'une des seules organisations à administrer des soins secondaires dans le pays caribéen, a annoncé suspendre ses activités à Port-au-Prince. Explication de Sarah Château. Elle est responsable des opérations en Haïti pour MSF.
C'est une crise sécuritaire, humanitaire, qui s'étale dans le temps. Les perspectives de sortie de crise sont quasiment inexistantes pour la population. Donc la population se fédère de plus en plus nombreuse et de façon de plus en plus violente autour de ces groupes de vigilance de quartier, ces milices de quartier qui se font justice à elles-mêmes. On a, nous, un dialogue avec l'institution de la police. On est en dialogue avec les institutions haïtiennes, mais c'est vrai que c'est toutes ces petites brigades, toutes ces milices qui ont été mises en place et qu'on a laissé faire qui nous prennent à partie. La neutralité dans ce contexte-là n'existe pas, elle est compliquée à comprendre. Donc nous, on soigne tous les blessés par balle, tous les patients, et on ne fait pas que ça, on soigne aussi les victimes de violences sexuelles, les maladies chroniques, on a tout un panel d'activités, mais on est perçu comme soignant les bandits, alors qu'on soigne aussi les policiers, on soigne les militaires, on soigne surtout la population civile.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Au Nicaragua, le dirigeant Daniel Ortega lance une réforme pour étendre son pouvoir. La présentant hier au Parlement, elle fait passer son mandat de 5 à 6 ans, restreint les médias et donne à son épouse le statut de coprésidente. Le régime Ortega expulse régulièrement des prêtres et évêques catholiques du pays. Il y a 3 semaines, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Valence en Espagne, faisant plus de 277 morts et des dizaines de disparus. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles ayant frappé le pourtour méditerranéen. Si de nombreuses défaillances ont été soulignées dans la gestion de la catastrophe, des alertes à la population et de l'activation des secours, ce phénomène climatique interroge également sur la capacité des villes méditerranéennes à faire face à ces intempéries. Comment adapter les villes à ces désastres climatiques qui s'annoncent de plus en plus nombreux? Qu'est-ce qui aurait pu être fait en amont à Valence pour limiter les dégâts? Élément de réponse avec Clément Gaillard, urbaniste spécialisé en design bioclimatique. Il est également fondateur du bureau d'études et de conseils Freio, spécialisé dans le développement de stratégies d'adaptation.
Valence avait déjà fait des aménagements à la fin des années 50 où elle avait déplacé le Rio Turia, donc un gros fleuve qui passait maintenant au sud de Valence. Et l'intérêt, c'était justement de protéger le centre ancien de Valence. Sauf que, en fait, en déplaçant cet axe vers le sud, Valence s'est urbanisée à la fois vers le nord et vers le sud. C'est des zones qui étaient essentiellement agricoles il y a 50 ans. Et en fait, elles se sont urbanisées ces 50 dernières années. Donc, vous augmentez, en gros, le contact entre des zones habitées par des populations humaines et des ouvrages hydrauliques qui, quand ils montent en charge et quand ils débordent, ils dépassent leur débit de conception, se retrouvent à créer des catastrophes.
Les changements climatiques sont particulièrement rapides dans l'espace méditerranéen. Quelles sont les priorités pour adapter ces villes aux aléas du climat?
Alors, à plus court terme, c'est justement de travailler plutôt sur la sensibilité à ces sujets, c'est-à-dire là où vous voyez, il y a eu un problème d'alerte, de prise en compte de ces alertes. Et j'ai vu des citations comme quoi certaines autorités disaient oui, mais on n'est pas météorologue. En fait, c'est justement, il faut prendre conscience du fait qu'on vit dans un climat avec des aléas qui vont se multiplier, et il faut être capable d'adopter les bons gestes, les bons comportements dans le cas de ces événements. Donc, normalement, l'alerte doit être transmise beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, il faut développer ce qu'on appelle une culture du risque. Typiquement, vous avez beaucoup en France d'exercices qui sont aujourd'hui faits sur les attentats, les choses comme ça, par exemple. Et en fait, c'est un peu le même principe dans les écoles ou dans les lycées. C'est travailler avec les collégiens, les lycéens ou les enfants aussi en école primaire pour déjà leur apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir, quels gestes ils doivent faire, etc. C'est aussi faire un travail de sensibilisation auprès des populations, c'est-à-dire que il faut aussi arriver à expliquer ce que peut être un bassin versant, éventuellement c'est quoi le lit majeur d'un fleuve, etc. Donc il y a toute une forme de montée en compétence, en compréhension de ces sujets qu'il faut arriver à avoir en fait.
Construire de nouveaux logements plus adaptés dans ces villes, est-ce une option?
C'est une bonne question. Le problème derrière, c'est que construire des logements neufs ou des bâtiments neufs ou des infrastructures neuves, c'est extrêmement polluant. Pour vous donner un ordre d'idée, un mètre carré de logement, c'est entre 600 et 700 kilos de CO2. Vous faites 10-15 mètres carrés de bâtiment, vous avez déjà fait l'empreinte carbone d'un Français sur un an. Donc on peut pas non plus se dire on va tout raser et tout recommencer, d'autant plus qu'on a des villes qui sont patrimoniales, donc qui ont des qualités et qu'on a envie de garder telles quelles. Donc il faut se débrouiller pour faire avec ce truc, et d'où justement ce sujet d'arriver à développer ces cultures climatiques, c'est-à-dire faire en sorte de dire que dans des bâtiments dont on sait qu'ils sont vulnérables, on peut les adapter à la marge. On va par exemple interdire les parkings souterrains, faire que des parkings silos, donc des parkings plutôt en hauteur. Donc on a cette chose-là de se dire qu'on est dans des villes qui sont déjà existantes, qui ont des qualités aussi patrimoniales, etc. Il faudra bien trouver à s'adapter en jouant sur ce sur quoi on peut jouer, c'est-à-dire des petites choses.
Concrètement, quels types d'aménagements peuvent d'ores et déjà être adoptés?
Alors déjà, il faut aussi se dire qu'on peut habiter en zone inondable. Il y a plein de régions du monde qui sont habitées en zone inondable, et par contre, il faut juste avoir un urbanisme et une architecture adaptée aux zones inondables. Donc ça veut dire déjà les rez-de-chaussée, il faut considérer qu'en zone inondable, un rez-de-chaussée, c'est pas un étage comme les autres, c'est un étage qui, en cas d'inondation, va prendre l'eau. Donc on le conçoit tel quel. La meilleure architecture pour ça, c'est construire sur des pilotis. Par exemple, des détails, mais on fait passer l'électricité sur le plafond, comme ça il n'y a pas de problème de coupure électrique si jamais le rez-de-chaussée est inondé. On se débrouille aussi pour rajouter plus de pilotis qu'il en faut, au cas où, je sais pas, il y a des débris qui viennent casser un des pilotis, ça évite que le bâtiment tombe. On met aussi ce qu'on appelle des déflecteurs, parce qu'en fait, une crue, elle charrie plein de débris, des arbres, des voitures, etc. Donc, on fait en sorte de protéger les bâtiments. On essaie aussi de concevoir, par exemple, une rue ou un boulevard. Du point de vue hydrologique, c'est aussi potentiellement un torrent. Donc, on va lui donner un profil, une forme, par exemple, une forme un peu de V, comme ça, pour qu'elle canalise l'eau.
Interrogé par Alexandra Sirgan, Clément Gaillard, urbaniste spécialisé dans l'adaptation climatique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. Prochaine édition à 13h en direct de Rome. Très belle journée.